Depuis 2021, la ville de Firminy est inscrite comme ville pilote du dispositif École Promotrice de Santé. Résumé par « Aller mieux pour apprendre mieux », ce dispositif se dirige sur trois axes, le bien-être physique, le bien-être mental et le bien-être social des enfants. Mercredi 6 décembre, à la Bourse du Travail, ce sont des professionnels de l'éducation qui étaient réunis pour la venue de Christine Urtic-Delattre, spécialiste de la coéducation à l'école, pour des ateliers sur ce thème. Écoutons tout d'abord Béatrice Mounier, adjointe aux affaires scolaires de la ville de Firminy, qui nous parle du dispositif École Promotrice de Santé.
Alors, l'École Promotrice de Santé, elle a été mise en place en septembre 2021. On a été contacté par l'Éducation nationale pour être ville pilote sur ce dispositif-là. L'École Promotrice de Santé, c'est la santé de l'enfant, mais dans tous les sens larges du terme. Qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit psychologique, enfin voilà, le bien-être de l'enfant pour être bien, pour bien apprendre. Et depuis septembre 2021, on met des actions en place, on cible des choses, on a déjà fait un diagnostic sur ce qui était, sur ce qui existait, parce qu'on part pas de rien, hein, les équipes travaillent déjà dans ce domaine-là, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut travailler ensemble et comment on fait pour que l'enfant, eh ben, il soit en bon état d'esprit dans les apprentissages.
Aujourd'hui, c'est une journée, une demi-journée de réflexion, de réunion avec une intervenante, Catherine Urtic-Delattre, autour de la coéducation et donc cette action tripartite, voire plus, entre les enseignants, les parents, les centres sociaux et puis aussi les enfants au centre de toutes les discussions. Pourquoi organiser cet événement-là? Est-ce que c'est à partir d'une demande aussi dans le cadre de l'École Promotrice de Santé?
Alors, on l'a inscrit dans le cadre de l'École Promotrice de Santé, mais déjà dans le projet municipal, c'est remettre l'intérêt de l'enfant au centre des préoccupations et des actions qu'on porte. La pertinence d'avoir autour de l'enfant, de prendre en considération la globalité de sa journée et de tenir compte de l'ensemble des adultes qui interviennent autour de l'enfant, permet à l'enfant d'avoir ses repères lorsqu'ils ont le même dialogue, que chacun trouve sa place, que chaque adulte trouve sa place dans la part qui lui incombe. Et ça nous paraissait cohérent pour que l'enfant se sente bien, effectivement, d'avoir un point sur la coéducation. Cette rencontre aujourd'hui, elle amorce un projet plus long parce qu'aujourd'hui on touche les enseignants, les parents, AESH, ASM, le personnel, qui est globalement autour de l'école. Mais on va aller plus large que ça parce qu'on va faire ça en soirée aussi pour toucher les parents qui travaillent et les animateurs, parce que les animateurs, le mercredi matin, remplacent les enseignants sur les sites et travaillent. Voilà. Donc, on veut vraiment que à travers nos projets, il y ait cette cohabitation de l'ensemble des adultes autour de l'enfant.
Si l'on regarde toutes les étapes jusqu'à aujourd'hui, depuis 2021, qu'est-ce que vous constatez dans les dialogues que vous pouvez avoir avec toutes ces composantes? Et puis, à quelle échéance se fera le premier bilan de ce projet École Promotrice de Santé?
Alors, on a beaucoup axé les choses sur le sport au démarrage, hein, donner envie, parce qu'on se rend compte que les enfants, ils ne marchent plus. Ils font plus de sport, enfin pour les enfants en club, mais pour certains c'est pas. Et puis certains n'ont pas accès non plus, hein, financièrement. Donc on a des semaines sportives, on a des temps sportifs qui sont organisés, mais pas que. La mairie met en place aussi des projets culturels parce qu'il faut aussi bien se sentir dans sa tête. Progressivement, ça prend de l'ampleur parce que progressivement il y a des choses qui s'installent, des projets qui émergent, des envies qui émergent. Cette année on a mis le théâtre en plus sur le théâtre d'improvisation. Ça permet aussi de valoriser certains agents qu'on a chez nous avec des compétences et qui peuvent apporter aux enfants. Et ça permet, il y a une chose qu'on constate, c'est le travail collectif qui se fait entre les enseignants d'une école à l'autre, alors que c'était un peu plus fermé avant. Et puis plus de visibilité aussi sur ce qui se faisait et qui continue à se faire, mais peut-être amélioré, peut-être. Voilà, c'est donner aussi de la visibilité à ce qu'on fait. Les points de bilan, eh ben, ils se font un peu toutes les années. hein, on a des copies où on rend des comptes aussi à notre directeur départemental d'éducation nationale sur un copil, hein, on rend des comptes, on fait un bilan de ce que nous faisons. On a intégré aussi les élèves de 6e de façon à ce que on puisse avoir cet échange CM2-6e et que l'objectif c'est que dans toute sa scolarité, l'enfant soit pris en charge de la petite section jusqu'à la terminale, mais ça voilà, il y a du chemin encore à parcourir.
Donc ce que j'ai entendu dans tous les groupes et vu dans les affiches, bon, il y a des consensus entre vous, bien sûr un consensus sur le besoin de dialogue, sur le besoin d'essayer de se comprendre et puis le besoin d'expliciter, à la fois mieux demander aux parents d'expliquer leur point de vue, mieux le comprendre, et puis du côté des professionnels, d'expliquer quelles sont les attendus, quelles sont les contraintes. Donc là-dessus, tout le monde est d'accord. Vous êtes aussi tous d'accord sur les contraintes et les difficultés inhérentes à vos conditions de travail, à vos conditions même de vie. On n'a pas beaucoup entendu là les parents, mais si on avait eu plus de parents, on aurait eu beaucoup de choses aussi sur leurs propres contraintes. On n'a pas qu'un seul enfant, on a une fratrie, on a un travail. Bon, il y a des tas de contraintes qui sont là. Et du côté des professionnels, les contraintes liées au manque de temps, hein, c'est toujours un énorme problème. Et puis au manque de moyens humains aussi, pas suffisamment d'AESH par exemple, etc. Donc là, c'est vrai que c'est des contraintes avec lesquelles ben, on est obligé de faire. Après, il y a aussi, je dirais, les luttes syndicales ou les autres endroits où on demande d'améliorer les conditions. Mais après, il faut quand même, au jour le jour, faire avec les conditions qu'on a.
Donc bonjour, moi je suis Catherine Urtic-Delattre. Je suis actuellement retraitée, mais j'étais avant enseignante, formatrice. Et je travaille particulièrement donc, sur la question de la coéducation, des relations entre l'école et la famille, mais pas seulement, entre les professionnels aussi.
Alors la coéducation, qu'est-ce que c'est? Comment on le définit? Je crois que vous le définissez à partir de trois piliers.
Oui, alors la coéducation, c'est le fait de mutualiser les avis entre les différents partenaires qui s'occupent d'un enfant, que ce soit bien entendu d'abord la famille, mais aussi tous les autres professionnels. Et effectivement, les trois piliers, ce sont des principes un petit peu qui guident cette coéducation, qui sont la coopération, l'explicitation et la parité d'estime. C'est un terme un peu compliqué pour se dire que dans la coéducation, on n'est pas tous des égaux. Il y a des professionnels et puis des gens qui sont dans leur affectif de leur famille. Donc on ne va pas parler tous du même point de vue, on ne va pas parler tous d'un même accord, mais par contre on va s'estimer mutuellement pour essayer de se comprendre. Alors c'est l'éducation au sens global, hein, surtout que là on est dans un projet sur la promotion de la santé d'une manière globale, donc la santé psychique, physique et sociale. Donc c'est vraiment l'éducation, oui, au sens global, donc c'est au-delà de l'enfant, c'est l'élève. Donc ça implique le bien-être et ça implique bien entendu aussi les apprentissages, mais les apprentissages que ce soit à l'école ou en dehors de l'école.
Aujourd'hui, nous sommes le lendemain d'une l'annonce d'une étude faite sur le niveau en mathématiques, avec un niveau qui s'affaiblit de plus en plus pour les élèves jusqu'à 15 ans. Et puis des annonces aussi du gouvernement, de Gabriel Attal, qui annonce des groupes de niveau. L'éducation, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut aussi, j'imagine, définir des projets sur le long terme. Cette étude-là, à chaud, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Alors là, vous posez une question à tiroir qui va en demander beaucoup de réponses. Je suis quand même assez sceptique sur l'étude PISA, qui a d'abord des certaines modalités d'évaluation, qui évaluent des résultats dans des conditions qui sont assez contestables. Et en tout cas, on doit quand même regarder en face ces résultats, mais ce qu'elle nous montre, c'est une école française surtout en baisse peut-être, mais surtout très inégalitaire. Et elle nous montre vraiment les grands écarts entre les enfants les plus favorisés et les moins favorisés. Et justement, la coéducation, c'est aider les enfants à mieux réussir par les relations entre partenaires. Mais effectivement, c'est des choses qui sont du long terme. Ici, on a des partenaires qui sont en train de travailler. Ils ne vont pas faire évoluer leur pratique du jour au lendemain. Donc, ce n'est certainement pas des effets d'annonce ou des mesures uniquement centrées sur les apprentissages dits fondamentaux qu'on va, à mon avis, arriver.
Il y a la question d'élever ces enfants, donc les accompagner dans leur construction, et cette question de l'écran qui prend de plus en plus de place, et l'on sait que l'écran a un impact sur le développement des enfants, la lecture est quelque chose qui a un impact à l'opposé, la discussion aussi c'est important, et là on rentre quand même chez les familles.
Oui, l'écran a un impact, mais il est loin d'avoir un impact que négatif. Donc les écrans font partie maintenant de notre vie. Si on voulait le supprimer de la vie des enfants, qu'en faudrait-il le supprimer de la nôtre, adulte? Et donc on sait bien, puisqu'on y est nous aussi confrontés, que l'écran est un outil merveilleux qui a ses limites. Donc la question, c'est d'éduquer les enfants aux écrans et non pas de leur supprimer les écrans, de mon point de vue. Et puis aussi, l'école doit prendre en compte ce nouveau média et doit prendre en compte tout ce que les enfants y apprennent. Bien entendu, en les protégeant contre là où ils ne doivent pas aller, mais en se disant que là, c'est aussi aussi pour eux un lieu d'apprentissage.
La coéducation, on imagine aussi le dialogue entre les enseignants et les parents d'élèves, avec les élèves, pourquoi pas aussi, pour que les trois parties entendent ce discours-là. L'école a changé aussi, le mode de vie a changé, ne croise très peu finalement les enseignants, une à deux fois par an. Comment on rétablit tout ça, ces dialogues-là? Quels sont ces espaces que l'on peut mettre en place?
En tout cas, ici, on est devant des écoles très dynamiques qui mettent beaucoup de choses en place avec les parents. Évidemment, c'est de moins en moins quand les enfants grandissent, plus à la maternelle, un peu moins en grandissant. Mais l'idée, c'est justement de multiplier les espaces de dialogue, d'implication des parents aussi, pour leur permettre finalement d'entrer par une porte qui leur convient, parce qu'il y a des parents qui sont intéressés par la convivialité, d'autres plus par l'institutionnel, les conseils d'école par exemple, d'autres qui vont avoir besoin simplement d'informations sur leur enfant. Et chaque parent va choisir finalement sa distance, mais c'est à l'école, c'est un geste professionnel pour l'enseignant. Ça fait partie de son référentiel de compétences, de mettre en place des choses pour dialoguer au mieux avec les parents.
À Firminy, aujourd'hui, quel a été finalement votre rôle dans cette demi-journée autour de la coéducation?
Alors donc, mon intervention s'inscrit dans le projet École promotrice de santé, donc qui est mis en œuvre de manière conjointe par la ville de Firminy et par la circonscription donc scolaire, et qui consiste donc avec cette approche globale à essayer de mettre en place des actions pour la santé en général. Donc ça va passer par le sport, par la prévention, mais pas seulement, le bien-être en général. Et donc l'idée, c'est d'améliorer la manière de travailler ensemble entre les différents professionnels et bien entendu avec les familles.
Après, ce qu'on voit apparaître dans vos groupes, c'est les tensions dont j'ai parlé un peu tout le long de la matinée, qui sont inéluctables et qui sont, je dirais, normales, mais c'est ça le chantier, c'est de les gérer. Donc on voit apparaître dans vos groupes des tensions liées à la définition du rôle de chacun. Est-ce que c'est le rôle de l'école d'apprendre autre chose que les fondamentaux? Parfois, certains parents peuvent dire, ben non, les maths et le français, c'est l'essentiel. Il y a aussi des ministres qui le disent parfois. Donc comment faire comprendre que le rôle de l'école, c'est l'ensemble des disciplines? Est-ce que c'est le rôle de l'école d'apprendre la propreté à l'enfant? Là-dessus, ben, y a des avis divergents. Bon, j'entends un non péremptoire, mais c'est vrai que l'école a été de plus en plus vers une mission éducative. Donc, où s'arrête la mission éducative de l'école? Voilà, c'est cette limite entre instruction et éducation qui est floue, hein, parce qu'effectivement, on ne peut plus dire que l'école instruit et que la famille éduque, parce que bien sûr que l'école éduque, le vivre ensemble fait partie de nos missions, des missions de l'école, bien sûr que la famille instruit, parce qu'elle apprend aussi plein de choses à son enfant, donc du coup il y a une limite poreuse là, et vous voyez que c'est très compliqué, parce qu'il va y avoir sans arrêt des tensions sur comment est-ce qu'on le définit, et du coup ça va être des choses qui vont être à réajuster, et à redéfinir, qui sont compliqués.
Après avoir écouté Christine Urtic-Delattre, place maintenant à un participant à ces ateliers, Julien Doumy, conseiller pédagogique sur la circonscription de Firminy, qui représente l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription. Il nous partage son expérience dans un groupe réuni autour d'études de cas.
Exactement, d'études de cas, de situations qui justement permettent de faire valoir les différents partenaires autour de la situation. C'est-à-dire que c'est souvent une situation qui engage un élève ou sa famille, et ensuite qui intervient sur les différents temps de l'enfant. Voilà, c'est-à-dire peut-être des situations qui vont permettre de voir à quel moment les parents vont pouvoir agir, comment ils vont pouvoir agir, à quel moment les ATSEM aussi, si on s'agit d'une école maternelle, les AESH, en fait, enseignants, directeurs et partenaires, associations de la ville de Firminy, ou alors peut-être encore les centres sociaux. Il s'agit de questionner l'intermétier, quelle place on a pour agir et comment on le fait. Voilà, pour respecter les élèves, leur famille, et surtout agir en confiance avec l'école.
Si l'on parle du groupe dans lequel vous étiez actif aujourd'hui, quel est ce cas en quelques mots, et quelles sont ensuite les pistes que vous avez posées qui vont être présentées là d'ici quelques minutes?
Alors, concernant le cas, nous, il s'agissait d'un élève de petite section où justement la famille se présentait très régulièrement en retard à l'école, qu'elle fréquentait le périscolaire le matin et le soir, et les journées du coup sont extrêmement longues pour l'enfant. et ça mettait un peu en tension à la fois le service du périscolaire et puis le service de, enfin, et puis l'école, puisqu'il y avait des problèmes en termes d'attention, en termes de propreté de l'enfant, en termes de voilà, et la famille dans le cas cité était justement dans une situation où nous on a un calendrier journalier à tenir, donc on est en retard, et on pose l'enfant à l'école. Et là, on a fait réagir, du coup, les membres du groupe sur cette situation. Et ben, il en ressort plusieurs pistes. Il en ressort quel accompagnement pour la famille, quelle place et quel rôle pour les parents au sein de l'école. Mobiliser les différentes instances pour trouver des solutions pour que la famille ne soit pas en retard, et puis quels enjeux de scolarisation, puisqu'on parle de petites sections, donc première scolarisation, quels enjeux pour que justement l'élève soit en position de bien apprendre à l'école, puisque c'est ça dont il s'agit. L'école promotrice de santé, c'est bien comment l'élève travaille mieux, être soit bien à l'école pour mieux travailler et mieux apprendre.
Dans les discussions du groupe avec ces AESH, ces enseignants et vous aussi, avec un autre regard et une autre fonction, quels sont ces échanges-là ? Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce que on oppose aussi son quotidien en tant que professionnel ?
Eh ben, c'est une très bonne question. On n'est pas forcément d'accord sur tout. Par contre, on agit dans un cadre institutionnel. Donc ça, c'est déjà une première réponse. Et que parfois, il y a des compromis, des discussions qui se mettent en place. Mais au niveau du cadre institutionnel, on est tous d'accord qu'on travaille dans la réussite et le bien-être de l'enfant à l'école. Voilà, que ce soit à l'école ou que ce soit même au niveau du temps périscolaire, on travaille bien sur la question du respect du temps de l'enfant et du bien-être de l'enfant. Donc là-dessus, il y a quand même consensus sur les différentes discussions qu'on a eues. Après, évidemment que chacun parfois essaie de défendre ses convictions, mais faut quand même rappeler que les enjeux de l'école doivent dépasser ce que chacun peut penser individuellement. Voilà.